Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, chers amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver. En ce mercredi 11 novembre 2020, j'ai le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Le bilan américain en matière des droits de l'homme, largement critiqué par l'ONU. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, le président Hassan Rouhani affirme que les politiques fondamentales de son pays ne changeront pas, peu importe qui deviendra le prochain président américain. En visite au Pakistan, le très haut diplomate iranien Mohammad Javad Zarif qualifie le Pakistan de voisin privilégié. Il rencontre ce matin le haut commandant de l'armée pakistanaise. Conflit du Haut-Karabakh, davantage de forces russes sont arrivées en Arménie pour une mission de maintien de paix. L'Iran salue l'accord de cessation de l'hostilité et se dit prêt à aider Moscou. Et puis, les drones du Hezbollah localisent des cibles depuis le ciel israélien. C'était les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Restez avec nous. Le président iranien affirme que les politiques fondamentales de son pays ne changeront pas, peu importe qui deviendra le prochain président américain. Le président Rouhani a déclaré que la politique iranienne était basée sur le respect des autres nations et la non-ingérence dans leurs affaires. Il a déclaré que le pays souhaitait une interaction constructive avec le monde et cherchait à lutter contre le terrorisme et à mettre fin à l'unilatéralisme. Hassan Rouhani a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles le président sortant Donald Trump n'avait pas remporté l'élection présidentielle américaine était que son administration avait été humiliée au Conseil de sécurité de l'ONU. Cela, ajoutait Rouhani, s'est produit après que la proposition anti-Téhéran de Washington a été rejetée catégoriquement par les membres du Conseil de sécurité. Le président iranien a déclaré qu'une autre raison pour laquelle Trump avait perdu était sa mauvaise gestion dans la gestion de la pandémie de COVID-19. L'Iran attend que le changement d'administration aux États-Unis soit un changement de cap, déclaration de Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne. Tout dépend du comportement des États-Unis. Nous attendons leurs actions, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères à son arrivée à Islamabad et en réponse à une question sur les perspectives de l'accord nucléaire avec la nouvelle administration américaine. Concernant la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, il a ajouté « Les personnalités sont certes importantes, mais ce qui est encore plus important, ce sont les comportements et les actions. Et la République islamique attend de voir ce que la nouvelle administration américaine fera. » Le chef de la diplomatie iranienne est arrivé ce mardi soir à la tête d'une délégation politico-économique à Islamabad pour consulter de divers sujets avec de hauts responsables pakistanais. Zarif a été accueilli à son arrivée à la base aérienne de Nur Khan par Sayyid Mohammad Ali Hosseini, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Pakistan. Un groupe de représentants de l'ambassade et le vice-ministre des Affaires régionales du ministère des Affaires étrangères du Pakistan. Au cours de sa visite de 2 jours au Pakistan, le chef de la diplomatie rencontrera le premier ministre Imran Khan, son homologue Shah Mahmoud Qureshi. Il vient de rencontrer ce mercredi matin le général Qamar Javed Bajwa, commandant de l'armée pakistanaise. Ces discussions avec les hautes autorités pakistanaises seront axées sur les moyens d'élargir les relations bilatérales, donner suite au processus de mise en œuvre des accords entre les deux pays et les consultations liées aux dernières évolutions régionales et internationales. Zarif a qualifié le Pakistan de voisin privilégié de l'Iran et conclut « Nous discuterons de manière régulière avec nos amis pakistanais de diverses questions, dont les relations bilatérales, les frontières, la coopération régionale et internationale, y compris l'Afghanistan ». Davantage de forces russes sont arrivées en Arménie pour une mission de maintien de la paix dans la région contestée du Haut-Karabakh. Moscou affirme que 20 avions et des centaines de membres du personnel sont arrivés dans un aéroport arménien où se trouve une base militaire russe. La Russie a commencé mardi à déployer ses forces au Haut-Karabakh. Cela est venu après que Moscou a négocié un accord pour mettre fin à ces 6 semaines de combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet de la région contestée. Dans le cadre de l'accord, l'Azerbaïdjan conservera tous ses gains territoriaux. Les forces arméniennes sont obligées de céder le contrôle de plusieurs territoires dans un délai déterminé. L'accord a déclenché la colère en Arménie, mais les célébrations en Azerbaïdjan. Les responsables azéris ont déclaré que la Turquie rejoindrait également la mission de maintien de la paix. Et l'Iran vient de saluer l'accord arméno-russo-azerbaïdjanais. La diplomatie iranienne saluant l'accord entre la République d'Azerbaïdjan, la République d'Arménie et la Fédération de Russie a souligné « L'Iran espère de voir l'aboutissement de cet accord dont les principes étaient également inclus dans l'initiative proposée récemment par la République islamique d'Iran pour une paix durable dans le Caucase. La République islamique d'Iran insiste sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégralité territoriale, de ne pas changer les frontières internationales officiel, de libérer les territoires occupés, du rapatriement des réfugiés, de respecter la sécurité et les droits des minorités et du retrait de toutes les forces takfiristes et des combattants étrangers de la région. L'Iran réaffirme qu'il est prêt à contribuer à l'instauration d'une paix et d'une sécurité durable dans la région et à participer aux initiatives régionales, peut-on lire dans la déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères, émise le mardi 10 novembre. Le 9 novembre, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont signé une déclaration annonçant un cessez-le-feu total et la fin de toutes les actions militaires dans la zone du conflit du Haut-Karabakh à partir de minuit le 10 novembre, hors de Moscou. La Russie est en train de déployer près de 2000 soldats de la paix pour assurer le respect du texte. Sachez également que la République islamique d'Iran s'est dite également prête à aider au déploiement des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie selon les lignes de contact conformément aux clauses 3 et 4 de l'accord de cessez-le-feu. L'actualité en Syrie, le président syrien a déclaré que les sanctions économiques américaines contre son pays ont entravé les efforts visant à renvoyer des milliers de réfugiés dans leur patrie. Bachar Assad a qualifié les sanctions d'illégales et a déclaré que ces sanctions ont infligé de nombreux dégâts et des pertes au peuple syrien. Il a déclaré que les terroristes qui combattaient en Syrie avaient déplacé de nombreuses personnes. Mais a-t-il ajouté, certains pays ont continué à soutenir ces groupes terroristes. Le président syrien s'adressait à la conférence internationale sur le retour des réfugiés syriens. La conférence a été organisée par la Russie et la Syrie. Elle vise à discuter des moyens de faciliter le retour en toute sécurité des réfugiés syriens. Les troupes turques se retirent des 3 postes d'observation à Hama et à Alep, en Syrie. Les militaires turcs se retirent des postes d'observation qu'ils avaient installés dans le nord de la Syrie. Les forces turques ont commencé à se retirer du poste d'observation Shir Magar à Hama et vont bientôt se retirer de Kaptan al-Jabal et Jabal Anadan à Alep. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, proche des terroristes, a annoncé ce mardi 10 novembre que les troupes turques se retiraient d'un poste d'observation à Shir Magar, au nord-ouest de Hama. Selon le rapport de l'OSDH, la nuit dernière, plus de 50 véhicules militaires ont quitté Shir Magar vers Marhatat, puis vers Sarakib et Jabal al-Zawiya. Selon toujours l'OSDH, les forces turques vont également évacuer 2 autres bases. Ces postes sont situés dans la région de Katan al-Jabal, dans l'ouest d'Alep, et dans la région Jabal Anadan, dans le nord-ouest de la province. Suite à l'avancée de l'armée syrienne plus tôt cette année, les forces syriennes ont pris le contrôle de 11 postes d'observation turcs. Malgré ces retraits, le nombre de soldats turcs en Syrie continue d'augmenter. Le nombre de véhicules militaires qui sont entrés dans Idlib depuis le nouveau cessez-le-feu atteint 5 450. les présidents turcs et russes sont parvenus à un accord de cessez-le-feu à Idlib le 15 mars dernier, à la suite d'affrontements croissants entre l'armée syrienne, des groupes terroristes et l'armée turque à Idlib. Le drone du Hezbollah localise des cibles en Palestine occupée. L'armée israélienne a annoncé avoir abattu un drone du Hezbollah qui survolait la Palestine occupée. Voilà un signe de plus montrant que le ciel israélien est sous le contrôle de la résistance. Le porte-parole en langue arabe des forces israéliennes, Avishai Adraï, a déclaré mardi 10 novembre sur son compte Twitter que l'armée israélienne avait abattu un drone du Hezbollah qui avait violé l'espace aérien israélien à partir du Liban. Il a souligné que l'armée avait suivi pendant un moment la trajectoire de cet engin avant de l'abattre, soulignant qu'il ne représentait aucun risque pour les localités environnantes. Et de souligner que les forces israéliennes déployées le long de la frontière avec le Liban restent toujours en état d'alerte. L'armée israélienne est en état d'alerte depuis cet été par crainte de la riposte du Hezbollah à l'assassinat d'un de ses combattants lors d'une frappe aérienne visant la banlieue de Damas. Le Hezbollah a à maintes reprises souligné qu'il se vengerait du sang de son combattant à un moment opportun. Direction la France, qui devra voir son activité économique réduite de 9% à 10% en 2020, indiqué François Villery de Glao, le gouverneur de la Banque de France. La Banque centrale avait prédit en septembre une chute du produit intérieur brut PIB de 8,7% cette année, avant la deuxième vague de Covid-19. Avant la deuxième vague, nous pensions qu'on aurait une récession d'un peu moins de 9%. Nous pensons aujourd'hui que sur l'ensemble de l'année 2020, on sera entre moins 9% et moins 10% de contraction du PIB, a déclaré cette autorité économique, qui s'est réjouie ensuite que l'impact du deuxième confinement sur l'ensemble de l'économie soit beaucoup plus faible que celui du premier au printemps, avec 12% de chute de l'activité prévue en novembre contre moins 31% en avril. Par ailleurs, le taux de chômage a bondi au troisième trimestre pour s'établir à 9% de la population active en France, une situation qui risque de s'aggraver dans les mois à venir avec la deuxième vague épidémique et le nouveau confinement. Selon les chiffres publiés mardi par l'INSEE, le taux de chômage mesuré selon les normes du Bureau international du travail BIT a connu une hausse de 1,9 points. La France compte 2,7 millions de chômeurs, soit 620 000 personnes de plus sur le trimestre. Sachez également que le taux de chômage au Royaume-Uni a progressé à 4,8% au cours du troisième trimestre et les licenciements ont atteint un niveau inédit en raison du choc économique de la pandémie, annoncé mardi le Bureau national des statistiques ONS. L'ONS rappelle que le taux de chômage était de 4,5% pour la période de 3 mois achevée fin août. Au troisième trimestre, soit entre juillet et septembre, le pays a enregistré 314 000 licenciements, dépassant les niveaux qui avaient suivi la crise financière de 2008. Malgré la réouverture de l'économie au cours de l'été, après le confinement, la crise sanitaire fait des dégâts profonds dans de nombreux secteurs comme ceux du transport aérien, du commerce, de la restauration, qui multiplient les annonces de suppression de postes. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Le bilan américain en matière des droits de l'homme critiqué par de nombreux pays à l'ONU. Les Nations Unies ont critiqué les États-Unis pour un tas de problèmes liés à leur bilan en matière des droits de l'homme. La 36e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel EPU du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est tenue à Genève et a examiné la situation des droits de l'homme aux États-Unis. La réunion a soulevé les questions de la brutalité policière, de la discrimination raciale et des mauvais traitements infligés aux migrants aux États-Unis sous l'administration Trump. de nombreux pays tels que la Chine, la Russie, Cuba, l'Iran, le Venezuela et la Syrie ont exhorté Washington à lever immédiatement toutes les sanctions et embargos unilatéraux contre les pays en développement, à cesser de pratiquer la torture lors de ses actions antiterroristes et à mettre fin à sa pratique d'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays sous prétexte des droits de l'homme. Le conseiller d'Iran auprès du siège de l'ONU à Genève, s'exprimant lors de la 36e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme, a demandé aux États-Unis de poursuivre les assassins du général Soleimani et mettre fin à la violation flagrante des droits de l'homme. Lors de son discours dans l'Assemblée de l'ONU sur la situation des droits de l'homme, Mohammad Sadatinejad, le conseiller aux droits de l'homme de la mission iranienne auprès du siège de l'ONU à Genève, a évoqué la longue histoire de graves violations des droits de l'homme aux États-Unis et a suggéré à Washington d'arrêter cela. Lors de son intervention, le haut diplomate iranien a exhorté les États-Unis à mettre fin aux meurtres systématiques à l'aide de drones et à traduire en justice les assassins de 5 citoyens iraniens, dont le martyr Soleimani, le héros de la lutte contre le terrorisme. Intervenant toujours à la Réunion, la représentante du Kenya recommande le forum au gouvernement des États-Unis pour prendre les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale, sexuelle, religieuse et autres, mettre en œuvre des stratégies délibérées pour réduire l'écart entre les Afro-Américains et le reste de la population ainsi qu'entre les autochtones et non-autochtones, et donc réduire la discrimination structurelle et institutionnelle. Les membres ont également suggéré que les États-Unis réintègrent l'accord de Paris sur le changement climatique et ratifient le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d'autres conventions internationales relatives aux droits de l'homme aussi rapidement que possible. Le Conseil a exprimé l'espoir que la prochaine administration américaine s'efforcerait de stopper ce qu'il a appelé les conséquences politiques néfastes de Trumpisme.
Bonjour mesdames et messieurs, merci de regarder l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Nous allons parler de la visite du ministre français des Affaires étrangères au Caire pour essayer d'apaiser les tensions qui existent entre la France et les pays musulmans depuis la publication des caricatures à l'encontre du prophète de l'islam et bien sûr l'assassinat de l'enseignant français. Et le ministre parle d'un profond respect à l'égard de l'islam et il est là pour dire que nous sommes contre les menaces qui pèsent sur le boycott des produits français. Et nous ne savons pas exactement de quel respect il parle car le président français a parlé du droit des caricatures et de la liberté d'expression, d'autres termes. Il n'est donc pas contre la publication des caricatures à l'encontre du prophète. Ou bien sûr, cette visite au Caire est peut-être un recul face aux menaces sur le boycott des produits français, ou bien pour essayer donc de redonner à la France l'image qu'elle a perdue, une image très affaiblie depuis donc la publication de ces caricatures. Nous allons voir plus clair à l'aide des experts des questions internationales juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré lors d'une visite au Caire que la France avait un profond respect de l'islam tout en condamnant les appels au boycott des produits français. La visite du ministre en Égypte vise à apaiser les tensions entre la France et le monde musulman. Selon le journal Al-Shourouk, le cheikh Ahmad Mohamed Al-Tayeb, grand imam de l'université Al-Azhar qui avait déjà vivement critiqué la France, a déclaré à M. Le Drian que si les insultes contre le noble prophète de l'islam étaient une manifestation de la liberté d'expression, les musulmans ne cesseraient de s'y opposer en justice. Si vous considérez qu'insulter notre prophète relève de la liberté d'expression, alors nous la rejetons dans la forme et le contenu. Et nous suivrons ceux qui offensent notre noble prophète devant les tribunaux internationaux, même si nous passons toute notre vie à ne faire que cela, a indiqué le cheikh Ahmad Mohamed Al-Tayeb. La visite de Le Drian au Caire intervient après que les pairs occidentaux commençaient eux aussi à lâcher Macron face à l'ampleur du mouvement de protestation. En réponse à une question sur les caricatures blasphématoires du prophète de l'islam, le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé que la liberté d'expression n'est pas sans limite. Nous nous devons d'agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux avec qui nous sommes en train de partager une société et une planète, a-t-il fait valoir. Récemment, une déclaration de Jacques Chirac sur les caricatures du prophète de l'islam, publiée en 2006 par Charlie Hebdo et d'autres titres de presse, ressurgit sur les réseaux sociaux. Signe que les Français ne suivent pas Jupiter et que le mouvement islamophobe a son origine ailleurs, à Tel Aviv par exemple. L'ancien chef de l'État français affirmait son soutien à la liberté d'expression, mais appelait à ce que celle-ci soit exercée dans un contexte de responsabilité, alors que leur publication avait déclenché des manifestations. Ce message précise qu'en 2006, le président français Jacques Chirac avait fermement condamné les caricatures de Charlie Hebdo sur le noble prophète Mohammed. Le chef de l'État français aurait alors déclaré « Tout ce qui peut blesser les convictions d'autrui, en particulier les convictions religieuses, doit être évité. La liberté d'expression doit s'exercer dans un esprit de responsabilité. Si la liberté d'expression est un des fondements de la République, celle-ci repose également sur les valeurs de tolérance et de respect de toutes les croyances. » Le message s'achève avec une déclaration qu'aurait tenue l'ancien président français en Conseil des ministres. « Je condamne toutes les provocations manifestes susceptibles d'attiser dangereusement les passions. »
Alors voilà pour le reportage. Alors j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Madame Aïssar Midani, experte de franco-syrienne depuis Damas. Bonjour, depuis Paris, vous m'excusez. Bonjour Aïssar Midani.
Merci à vos invités et merci à toute l'équipe de Presse TV. Et aussi je salue tous les téléspectateurs.
Bien, un grand bonjour à Monsieur Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour.
Monsieur, bonjour à vos auditeurs et à Madame Midani.
Un plaisir de vous recevoir sur l'émission Le Débat. Ma première question va s'adresser à Aïssar Midani. Alors, Madame Midani, la liberté d'expression qu'évoque le président français à qui vaut la publication des caricatures sur le noble prophète et susciter bien sûr la colère à travers le monde?
Alors, effectivement, ce sont les déclarations du président Macron, en fait, concernant ces caricatures, parce qu'il continue à soutenir la publication de ces caricatures. Il a, dans sa première réaction aussi, jeté de l'huile sur le feu, dans la mesure où il a parlé, même à l'occasion aussi des attentats terroristes, et même avant, il parlait de l'islam terroriste, hein, et qu'il fallait, il parlait de séparatisme islamique, etc. En fait, je crois qu'il y a une véritable prise de position, en fait, aujourd'hui, qui vise à attiser effectivement les contradictions avec les musulmans du monde et d'un côté et les musulmans français de l'autre côté. Ceci correspond effectivement aussi à une volonté sioniste, hein, puisque les guerres de religion ou les guerres contre l'islam pourraient justifier la judaïté de l'État d'Israël, chose pour laquelle ils se battent depuis une bonne dizaine d'années au niveau de l'ONU et au niveau de la région.
Bien sûr.
Donc,
oui.
En fait, c'est important de remettre ces déclarations dans leur contexte. D'ailleurs, je vous remercie pour votre très importante et intéressante introduction qui a mis aussi en évidence les positions du président Chirac qui étaient effectivement des positions très correctes de respect de toutes les religions et surtout de la religion musulmane aussi en France et une condamnation de ces dictatures qu'il avait faites en son temps. Donc aujourd'hui on sent qu'il y a un changement effectivement sous une pression qui est la pression sioniste.
Absolument. Monsieur Pierre Dortiguier, nous avons entendu l'introduction de Madame Midani. À présent, j'aimerais connaître la vôtre concernant la prise de position sans doute ordonnée par disons, un lobby qui est donc la prise de position à l'encontre donc pour l'encouragement de la publication des caricatures à travers le monde.
Oui, en effet, il s'agit là d'un plan qui touche la France, bien sûr, mais qui est international. Il s'agit de désigner l'ensemble des non-musulmans comme un objet de mobilisation de la part de toutes les forces non-musulmanes, chrétiennes ou rationalistes ou autres, pour pouvoir justement faire apparaître, il faut le dire bien sûr, l'entité sioniste comme étant une sorte de victime elle-même de cette de l'islam, étant, disons, c'est une manière, voyez-vous, il y a deux coups. Il y a un coup politique ou géopolitique, et puis un deuxième coup, qui est pas encore, et s'il est possible, c'est une lutte contre l'esprit religieux en général. Je crois que c'est une forme de religion qui avait été, vous savez, chez nous, imprimée pendant la Révolution française, dans les années 92, 93, 94, où il y avait une attaque contre la religion catholique, en particulier la religion chrétienne. Et je pense que la franc-maçonnerie, par exemple chez nous, a repris cette tradition. Et il est malheureux, je crois, que si M. Macron, qui, je le répète d'ailleurs, de formation religieuse, puisqu'il a été dans un établissement de jésuites, arabien, a suivi cette voie de carrière, et aujourd'hui, comme président, d'ailleurs, magistrat suprême, c'est qu'il est obligé de le faire. Je crois que le pape est totalement sincère de ce qu'il dit. Je crois qu'il est. Bien sûr, d'aller, comme il le fait, défendre ce qui n'est pas des caricatures, comme vient de dire. C'est plus qu'un blasphème, mais dans le sens d'être au fort du terme. Ce sont des méchancetés, des choses épouvantables qui ont été dites contre le prophète de l'islam, qui auraient été aussi épouvantables si elles avaient touché quelques grands personnages de l'histoire. Là, voyez-vous. Ce qui est très fort chez nous, c'est que l'éducation nationale à laquelle j'ai appartenu, véritablement, a pris fait et cause pour le président, tout au moins dans ces cadres importants. Mais nous avons aussi en France, et vous avez raison, comme a dit Mme Misani, de bien marquer l'opposition qu'a faite à l'époque M. Chirac, nous avons aussi en France une opposition très forte d'une partie du clergé catholique. Et dit que la liberté ne pouvait pas du tout se lier avec un blasphème. La liberté est liée à la raison. Bien sûr, si vous êtes libre de faire quelque chose à condition que la chose soit raisonnable, à condition que votre liberté soit, disons, subordonnée à la sagesse, au bon sens. Or là, il s'agit véritablement d'un discours plus que de haine, de destruction, de mobilisation. Et bien, je conclurai là-dessus que. Cette mobilisation contre l'islam aujourd'hui, de façon générale, et dans l'enseignement en particulier, veut couvrir une crise économique également épouvantable, voyez-vous.
D'accord.
Et on essaie de trouver, si je puis dire, permettez-moi l'expression, une tête de turc, si je puis me permettre l'expression, voyez-vous qu'on peut dire autre part, pour pouvoir dévier justement l'attention des gens. Et je crois que ceux qui ont fait cela, ceux qui ont poussé le président de la République à parler ainsi, veulent justement créer en France des foyers de guerre civile pour apparaître eux-mêmes comme des sauveurs. Alors ce sont eux qui sont les véritables destructeurs de notre société.
D'accord. Alors, Madame Medani, des propos assez durs de la part de M. d'Ortiguier concernant donc l'objectif de cette prise de position, alors que le ministre donc français des Affaires étrangères est au Caire, il ne s'est pas donc il s'est permis de ne même pas s'excuser à l'égard donc des insultes à l'encontre des musulmans à travers le monde, mais il est juste inquiet donc du boycott qui pèse sur les produits français et rien d'autre.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et il est parti pour prendre effectivement l'Égypte comme intermédiaire pour intervenir auprès des autres pays musulmans, d'autant plus que l'Égypte abrite l'école de l'Azhar et que l'imam de l'Azhar a une grande influence en fait sur l'ensemble des croyants, je peux dire, et donc il est allé pour faire c'est justement pour leur demander de faire autre chose vis-à-vis des produits français. Et non seulement il ne s'est pas excusé, mais il a au contraire persisté et signé en disant « Nous sommes quand même le pays de la liberté d'expression ». Et en fait, je trouve ça absolument non seulement intolérable, mais c'est complètement le mépris des peuples. Hein. Parce que bien qu'ils insistent sur le fait, le lien entre ces caricatures abjectes, je dirais bien abjectes, mais vis-à-vis non seulement du prophète musulman, mais ça serait abject vis-à-vis de n'importe quelle personne, parce qu'il y a des scènes presque pornographiques là-dedans, en fait, et abject à présenter à des enfants. Mais d'un autre côté, il continue à les soutenir, il continue à dire c'est la liberté d'expression. Mais moi, j'aurais bien voulu, si on prenait le cas inverse, s'il y avait autant de caricatures vis-à-vis de la Shoah ou vis-à-vis de la judaïté. Alors, quelles seraient les réactions et est-ce qu'ils oseraient faire ça? Justement, ça montre bien que, alors qu'il y a eu des professeurs d'université qui ont même invité tout simplement à revoir l'histoire pour ce qui est de la véracité de la Shoah, mais revoir, étudier les textes de la région, l'histoire de la période, en fait, du nazisme. Et là, ils ont été enlevés de leur poste, ils ont été licenciés, ils ont été traqués pendant toute leur vie et ils passent de plaintes, de procès et passibles de prison. Donc, vous savez aussi que le sionisme l'antisionisme a été assimilé à l'antisémitisme en France et que l'antisémitisme est puni par la loi aussi comme un crime. Ça, c'est d'un côté, et de l'autre côté, on dit à insulter le prophète des 2 milliards de musulmans dans le monde, c'est de la liberté d'expression. Alors, je ne sais pas dans quelle logique ça tient, alors que pour moi, la laïcité est effectivement le respect de toutes les religions, de toutes les croyances. Je voudrais rappeler quand même quelque chose par rapport à la Syrie. Sur un mur de temple de Palmyre qui existe depuis quelques milliers d'années, il est écrit « N'insulte jamais un dieu que tu ne considères pas comme le tien ». Car il faut toujours respecter ceux qui y croient. Donc, en fait, nous, depuis des siècles, nous avons des siècles, voire des milliers, des millénaires, nous avons cette notion de respect des autres. Hein, et ils sont venus, je rappelle quand même, ils sont venus en soutenant les terroristes qui sévissent aussi aujourd'hui en France, pour détruire la Syrie et détruire cette civilisation syrienne et toutes ces traces. Donc en fait, ils sont en train de continuer dans cette guerre, ils persistent et signent dans cette guerre, non seulement contre la Syrie, mais contre nos peuples, toujours au profit du sionisme international,
oui. Justement, Monsieur Pierre d'Ortigui, est-ce que cette visite d'un ministre français des Affaires étrangères au Caire va permettre d'apaiser donc les tensions entre la France et les pays musulmans, mais également donc les musulmans décident de ne plus boycotter les produits français? Est-ce que ça va servir à grand-chose ou les musulmans sont très en colère?
Oui, en effet. Il est certain que, il est probable, disons, vraisemblable, que autour de M. Le Drian, certainement, se trouve un parti, un groupe d'hommes qui désapprouve certainement l'initiative personnelle, tout au moins l'initiative, disons, du président de la République et son geste. Ce sont des tempéraments différents. Je crois que M. Le Drian est beaucoup plus réaliste et que M. Macron, disons, se maintient dans une arrogance Nous avons vu justement, même contre la Turquie récemment, puisqu'il il veut mettre en cause, par exemple, cette facilité, disons, de douanière, etc., avec un pays, chez lequel nous avons à peu près 2000 entreprises. Et alors, ceci, je crois que la position de M. Macron, personnelle, n'est pas entièrement suivie. Disons qu'il veut réparer les dégâts. Et malheureusement, il ne peut le faire que si le président de la République lui-même affirme son autorité. Or, ce n'est pas le cas. Et je crois que cet aveuglement nous coûtera très cher. Je pense qu'il y aura un accommodement quand même aussi dans le domaine du blocus. Je ne crois pas qu'il sera total. Je crois que les administrations, etc., à l'étranger, essaieront, disons, de calmer la colère légitime du peuple. Mais je crois que M. Macron s'est affaibli, je dis personnellement, auprès, disons, de ses propres membres du gouvernement. Je ne crois pas, vous savez, qu'il puisse le suivre. Et je donne l'exemple de M. le président, qui appartient comme lui à la maçonnerie, etc., mais qui nous semble, nous, comme Français, avoir un peu plus de poids et un peu plus de réalisme. Autrement, nous serions condamnés, disons, à supporter les conséquences d'un défaut qu'on dit national à l'Europe, et des Français, je dois l'admettre,
Monsieur Dorfiguer, depuis
le 18e siècle, nous sommes arrogants.
Voilà. Oui. Justement, la France qui n'a plus ce poids, car ses voisins européens sont déjà contre Emmanuel Macron à l'égard de sa prise de position à l'égard des musulmans. Et la France a perdu une image très affaiblie. Donc, ça m'étonnerait que la France puisse donc redonner à la France donc une image auparavant.
Tout à fait. Je veux dire que je donne l'exemple que je connais de l'Allemagne. L'Allemagne, depuis très très longtemps, je parle du milieu industriel et autres, est tout à fait opposée à la politique française de ce point de vue et désapprouve particulièrement en ce qui concerne cette question islamique, cette question sur l'islam, cette question sur la Turquie, désapprouve entièrement la position française. Je dirais un seul mot, voyez-vous, nous sommes allés si loin aujourd'hui en France que même le terme islamique ou d'islamisme, qui était considéré comme un terme, vous voyez, tout à fait correct au 19e siècle, encore même au 20e siècle, et se trouve en moins avec éloquence, avec louange. Dans un grand traité de discours qu'il a fait, sur l'histoire, laissé sur l'esprit et les mœurs des nations, tout ceci est devenu une injure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on assiste véritablement, à mon sens, à la résurgence dans l'histoire française de ce qu'a été la terreur. Je veux dire un dernier mot, n'oublions pas que c'est un exemple, comme la liberté, a envoyé 16 femmes, même consacrées à Dieu, voyez-vous, à l'échafaud en 1794. On peut quand même aussi le voir. Et je crois qu'au tribunal de Dieu, il faudra oublier de le dire.
Oui, absolument. Madame Midani, cette présence au Caire d'un ministre français des Affaires étrangères, là, on a décidé d'un coup de distinguer donc la loi sur le séparatisme islamique et l'islam, alors qu'auparavant, il ne distinguait pas donc ces deux mots. Là, on est au Caire pour demander donc au monde entier de ne pas boycotter les produits français. Est-ce que ça va suffire pour redonner à la France l'image qu'elle avait auparavant?
En fait, je pense que la France, malheureusement, elle persiste et signe et elle s'enfonce, en fait, elle va dans le mur, dans sa politique, pas seulement avec les pays arabes, avec les pays musulmans. Et en fait, c'est la présence de Le Drian en Égypte, alors qu'il n'y a eu absolument aucun mot de regret et d'excuse par rapport à ce qui a été dit, à ce qu'a dit le président Macron, d'une part, que d'autre part, il continue à vouloir effectivement imprimer toutes ces caricatures et les diffuser comme un livre à l'école, donc dans la formation des jeunes, pour les monter aussi contre, pas seulement contre l'islam, mais pour inculquer un mépris de l'islam. Et puis en plus, là, ils ont couru pour le boycott des produits français. Je pense que ça ne suffira pas, mais de toute façon, on peut dire que les relations entre les États sont soumises à autre chose qu'à des réactions sentimentales de ce type. Mais il est important que l'ensemble des pays comprennent que la France, elle est sous influence, effectivement, que même d'ailleurs, hier, j'ai vu des vidéos de Biden lorsqu'il était le vice-président des États-Unis avec Obama, où il affirmait aussi qu'il travaille avec les terroristes aussi. Et donc, les terroristes sont soutenus par l'Arabie saoudite, etc. Enfin, bon, donc il y a eu des amalgames de toutes sortes, un amalgame entre le terrorisme et l'islam, un amalgame entre les insultes et Mahomet, etc. Enfin, bon, tout ça, ça n'est pas du tout fait pour améliorer l'image de la France auprès des musulmans, d'une part, et ni encore améliorer les valeurs qui sont dites, les valeurs de la France, justement, ces valeurs dites de liberté d'expression, parce que comme si la liberté d'expression, elle n'est faite que pour attaquer l'autre et que pour attaquer les croyances et pour mépriser l'autre et servir à mépriser l'autre et à mépriser ses croyances.
Madame Bidani. Donc, bien sûr, là, on est face à une provocation chez le gouvernement français, car on ne voit aucune caricature à l'encontre d'autres religions, absolument, par hasard, oui, et aucune réaction à cet égard.
Absolument, absolument, et je, pas seulement vis-à-vis des autres, il y a des réactions qui sont vraiment très, très anti-liberté d'expression et justement très prohibitrices et même très punitive par rapport à n'importe quelle réaction qui pourrait se faire, même au niveau de certaines vérités historiques des fours à gaz ou de la Shoah, etc. Et par rapport aux croyances. Donc ces gens, ils sont toujours traités de négationnistes, etc. Et on les poursuit en justice. Hein. Donc je pense qu'il est important, effectivement, au niveau de cette réaction, que nous puissions, en fait, que tous les musulmans aussi puissent poursuivre en justice l'État français et les acteurs qui ont fait ces caricatures et qui les soutiennent, parce que sinon il n'y a pas de limite, et sinon il n'y a pas de, ça continue dans le mépris et dans la supériorité, si vous voulez. Pour moi, c'est aussi une prolongation de l'esprit colonial français qui a colonisé par le temps beaucoup de pays musulmans aussi, dont l'Algérie, la Syrie, le Liban, etc. Ils ont toujours essayé de diviser, de mettre en avant le mépris des religions et des croyances des autres, même aussi de leur civilisation, et faire fructifier ou même glorifier l'histoire française, etc. Donc c'est vraiment purement colonialiste comme attitude, et ils continuent dans cette même attitude, en fait, de colonialisme intellectuel, je dirais, et de terrorisme intellectuel vis-à-vis des gens qui veulent s'exprimer plus librement. Et voilà que là, les gens qui veulent s'exprimer plus librement, déjà vis-à-vis de l'histoire d'Algérie. Hein. Je voudrais rappeler quand même que jusqu'à maintenant, les archives algériennes, elles n'ont pas été ouvertes, hein, alors que l'indépendance de l'Algérie date des années 65.
Voilà. Aïssa Midani, experte franco-syrienne des affaires étrangères internationales. Merci infiniment d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Dédollarisation en cours. Lors de ces vagues successives de sanctions, les États-Unis ont mis sur la liste noire pratiquement tout le secteur financier iranien. La banque centrale iranienne a annoncé qu'elle avait adopté le yuan
également connue sous le nom de renminbi, comme principale monnaie de réserve étrangère, remplaçant le dollar américain. Avec un partenariat stratégique de 25 ans avec la Chine en cours de discussion, l'Iran aura un marché garanti pour ses exportations de pétrole et de gaz. Et avec des réserves de renminbi, il sera en mesure de contourner plus facilement SWIFT, le service de messagerie utilisé par les banques du monde entier pour les transferts d'argent. L'Iran n'est pas le seul pays à tomber sous le coup d'un dollar armé. La Russie, la Turquie et le Venezuela font également partie de ces rangs. Les sanctions américaines agressives ont donné à ces pays et aux commerçants qui souhaitent faire des affaires avec eux des raisons de trouver des arrangements alternatifs. En Chine également, la domination du dollar suscite un certain malaise. Le vice-président de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a déclaré que tant que le pays dépendait principalement du système de paiement en dollars, il était vulnérable aux sanctions américaines. Les décideurs politiques chinois espèrent que l'initiative Ceinture et Route, son vaste projet d'infrastructure et de développement, sera un moyen par lequel le renminbi pourra accroître son rôle dans les contrats commerciaux internationaux et protéger les transactions contre les fluctuations du dollar. Les banques centrales du monde entier détiennent davantage d'actifs libellés en yuan. Et de nombreux dirigeants de banques centrales estiment que le yuan représente 10 à 20% des réserves mondiales d'ici 2030, contre 2% actuellement. Ce qui vaudra la peine d'être observé, c'est la part en pourcentage de la devise dans certains pays. En termes de volumes globaux dans le commerce mondial, la part peut être faible, mais elle aurait encore des implications sur l'influence géopolitique de la Chine, comme les votes aux Nations Unies. La volonté de la Chine d'internationaliser le yuan est enracinée dans la crise financière de 2008. Avec ses importantes réserves en dollars, la Chine a été surexposée à la volatilité du dollar. L'année suivante, son Conseil d'État et ses ministères ont adopté conjointement des mesures relatives à des projets pilotes de règlement du commerce transfrontalier en renminbi. Depuis lors, la Banque centrale chinoise a mis en place une série de mesures pour promouvoir une internationalisation accrue de sa monnaie. La Chine a annoncé un flux constant d'accords d'échange de devises avec d'autres pays au cours de la dernière décennie. Et le nombre de banques traitant des paiements en yuan est en augmentation. La Chine s'efforce également de mettre en place l'infrastructure pour le commerce libellé en yuan, encourageant diverses régions à rejoindre les systèmes de paiement en renminbi. Alors que les pays qui ont adhéré à la ceinture et la route peuvent constituer leurs réserves de renminbi en termes de volume, les actions des grands gestionnaires d'actifs américains peuvent également jouer un rôle clé dans l'internationalisation de la monnaie chinoise. Malgré les tensions bilatérales, BlackRock, JP Morgan et Vanguard étendent toutes leurs opérations en Chine. Les investisseurs institutionnels se sont accumulés dans la dette du gouvernement chinois en raison de son rendement élevé et en tant que l'une des rares grandes économies à croître cette année au milieu de la crise des coronavirus. La Banque centrale chinoise a publié le mois dernier un projet de règles facilitant l'accès au marché obligatoire du pays pour les investisseurs institutionnels étrangers. L'année dernière, les hauts responsables politiques de Pékin ont souligné le spectre du risque financier comme l'une des trois batailles que la Chine doit mener, les deux autres étant la pauvreté et la pollution. L'internationalisation du yuan est un objectif à long terme. Cela rendrait la monnaie plus résistante et faciliterait le commerce pour la Chine. Là où les commentateurs chinois diffèrent, c'est sur la façon d'atteindre cet objectif et sur la façon d'équilibrer l'ouverture de la monnaie avec un contrôle financier continu. Les considérations de Pékin ne porteront pas seulement sur l'infrastructure financière, mais sur les choix que les gens pourraient alors faire. L'assouplissement des contrôles des capitaux permettrait aux entreprises et investisseurs légitimes ainsi qu'aux fonctionnaires corrompus de transférer plus facilement de l'argent à l'extérieur du pays. L'adoption du yuan par l'Iran ressemble à une autre étape dans ce qui sera un processus de plusieurs décennies où la monnaie assumera un rôle international plus important selon les objectifs de la Chine. Le yuan a toutes les chances de remplacer le dollar et il deviendra une monnaie plus importante, en particulier dans les marchés émergents et dans les pays sous sanctions américaines. D'autant plus que l'Iran et la Chine sont sur le point de signer un accord stratégique de 25 ans et que leur coopération s'inscrira dans la durée.